Radio Grand Ciel présente Histoire et mémoire, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Paolo Davi. Au micro, Christiane Blain. C'est avec joie que je reçois Pierre Écart. Il va évoquer pour nous son association et également ses objectifs. Sylvain Pénat également va nous rejoindre. Pierre Écart, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors j'aimerais tout d'abord que vous évoquiez votre association. D'abord, comment s'appelle-t-elle ?
Alors, notre association s'appelle Compostelle 28.
Oui.
C'est une association laïque qui est sur toute la Loire. Une association qui a été créée déjà dans les années 2000 et quelques par d'anciens pèlerins qui étaient partis à Compostelle par eux-mêmes, sans plus de conseils ni d'informations, et qui en revenant se sont dit quand même que ce serait bien de faire quelque chose pour aider tous ceux qui veulent partir. À la fois aider les pèlerins qui passent sur le territoire de Loire en les accueillant, en les aidant à trouver le bon chemin par un bon balisage des chemins.
Bien sûr.
Et à promouvoir les chemins, c'est-à-dire à essayer de donner envie aux autres de partager le bonheur qu'ils ont reçu dans cette expérience du chemin.
Et des ouvrages ont été écrits à cet effet ?
Des ouvrages, oui, mais pas forcément par l'association. Dans les bonnes librairies, il y a beaucoup de bons livres qui parlent de Compostelle.
Et dans l'association elle-même ?
Dans l'association elle-même, nous avons un site internet sur lequel est toute une partie d'histoire.
Oui.
Qui a été rempli par un de nos fidèles adhérents.
À savoir.
Et qui est disponible. Le site ou l'adhérent ?
Les deux.
Les deux. Alors le site, c'est compostelle28.org.
Oui.
Que vous trouvez. Il y a une page, un onglet qui s'appelle, je crois, Histoire.
Oui, Histoire.
C'est Sylvain Pénat qui a participé en majeure partie à remplir cette rubrique.
Oui, Sylvain Pénat que nous allons entendre tout à l'heure. Alors, je reçois également Hugues Leguet. Bonjour, Hugues Leguet.
Bonjour, Christiane Blain.
Alors, vous-même, pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui ?
Voilà. Eh bien, justement, comme vient de le dire Pierre, je suis un de ces pèlerins voyageurs.
Oui.
Un jour, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai mis un pied.
Il fallait du courage ?
Oui, parce qu'on part dans l'inconnu.
Oui.
Et que c'est un inconnu qui peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et qu'il faut mettre le premier pas sur le chemin. Et donc un jour, j'ai eu ce bonheur de mettre le premier pas et de plonger dans un espace de liberté incroyable et dans un monde où j'ai rencontré la simplicité humaine, l'écoute, la nature, les monuments historiques liés au chemin, parce que c'est 1000 ans d'histoire dont nous parlera tout à l'heure Sylvain. Et donc voilà, j'ai rejoint l'association pour partager avec les membres de l'association ce bonheur que j'ai eu, et puis pour aussi tenter d'expliciter aux gens le mieux possible ce qu'est le chemin et ce qu'on y trouve et pourquoi partir.
Alors vous disiez, c'était l'inconnu. En fait, je ne pense pas, parce que si ça avait été tellement inconnu, vous n'auriez pas été tenté. Il y a quand même eu une étincelle.
Alors oui, l'étincelle, elle est venue à travers des lectures, vous évoquiez les ouvrages. Un très beau livre qui est malheureusement plus édité, mais qui était aux éditions des Clés de Brouwer sur Chemin de Saint-Jacques, avec des photos magnifiques qui m'ont donné envie de partir. Et puis les circonstances de la vie qui ont fait qu'un jour j'ai eu du temps devant moi. Et donc, de ce fait, j'ai pu partir. Voilà, je suis parti du Puy-en-Velay en 2010.
Alors, c'était l'été, l'automne ?
C'était au printemps.
Oui.
Et ce départ m'a permis de traverser l'Aubrac, après, qui a été un passage magnifique. Parce que
alors là, vous êtes à pied depuis déjà ?
À pied, avec mon sac à dos.
Depuis Chartres ?
Non, depuis le Puy-en-Velay.
Le Puy-en-Velay.
Voilà.
Alors vous étiez allé au Puy-en-Velay avec
en
des
train,
amis ? Non,
pas en train. Et avec mon épouse. Nous sommes
donc
partis tous les deux.
Tous les deux. Ah, ça c'est très important de le dire. Parce
oui,
que
tout à fait.
On a toujours l'impression qu'on est solitaire. Mais en fait, non, c'était un ménage, un couple.
Voilà.
Ce qui est très important et très intéressant pour nos auditeurs.
On a décidé de partir ensemble. On a donc traversé l'Aubrac après le Puy-en-Velay. Et puis, on a poursuivi dans la vallée du Lot.
Alors, au puits. Vous avez assisté à la messe avant.
Alors,
de partir.
On a assisté à. Les circonstances ont voulu que le jour où nous sommes partis, il y avait une grève des trains en France.
Oui.
Donc, au lieu de mettre 5 heures pour rejoindre le Puy-en-Velay, on a mis 10 ou 12 heures pour, avec des bus. Les circonstances ont été différentes de ce qui était prévu. Et donc, nous sommes arrivés très tard au Puy-en-Velay. Donc on a tout de suite rejoint notre hébergement et le lendemain matin, nous partions. Donc nous sommes allés à la bénédiction à la basilique.
Oui, parce que c'est très important et émouvant en même temps.
Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens, comme moi-même, qui partons sur les chemins, on ne part pas forcément pour des raisons religieuses. Spirituel, certes, ça, je crois qu'on peut pas.
Je crois qu'on peut pas ça.
Voilà, on peut pas le négliger, au contraire même. Oui. Mais donc, nous sommes allés à cette bénédiction. J'ai été tout de suite marqué par le fait que le prêtre qui était là nous demandait d'où nous partions et jusqu'où nous pensions pouvoir aller. Donc, on a tous indiqué. Moi, j'ai indiqué que je voulais aller jusqu'à Saint-Jacques, mon épouse également. Et puis, tout d'un coup, quelqu'un, dans un français très moyen, a dit « Ben moi, je viens de Kiev, en Ukraine. »
Oui. Ah oui.
Et là, j'ai pris conscience qu'il avait traversé l'Europe entière.
Bien sûr.
Pour venir au Puy-en-Velay et pour aller jusqu'à Saint-Jacques.
Oui.
Et moi, je m'interrogeais sur ma capacité à aller jusqu'à Saint-Jacques. Et tout d'un coup, je découvrais que des gens faisaient bien autre chose.
Plus.
Et une épreuve physique et peut-être morale. Parce que
épreuve c'est... voulant dire prouver que.
Bah oui, se prouver à soi-même
voilà,
que.
Oui.
Ça a été un premier petit choc. Et puis, nous voilà partis. Nous avons
péri tous les deux,
Avec des rencontres d'hébergeants, avec des rencontres petit à petit de pèlerins.
Alors, hébergeants, peut-être vous pourriez évoquer l'hébergement.
Oui. Alors, sur la première partie du chemin, qui est donc le plateau de l'Aubrac, on est essentiellement dans des hébergements, pour ce qui me concerne, mais parce que c'était mon premier chemin, je pense que beaucoup de gens fonctionnent comme ça. Sur la première partie du chemin, on a tendance à réserver nos hébergements. Parce que on se dit, non, c'est pas possible. Je peux pas coucher comme ça sur le bord du chemin. C'est pas possible.
On a une hantise de la fatigue qui va venir. Et
de la fatigue et puis de l'interrogation, de savoir comment ça va se passer, où est-ce qu'on va pouvoir manger, etc. Donc, on a tendance, et c'était mon cas, j'avais réservé les 15 premiers jours, tous les jours, les étapes étaient marquées. Et très vite, j'ai pris conscience que ça ne pouvait pas fonctionner comme ça, et pour ce qui me concerne, et mon épouse, pareil, qu'on avait envie d'une totale liberté. Parce que c'est vraiment un chemin de liberté. Donc, en fait, on a marché 3 semaines ensemble avec mon épouse. Et au bout de 3 semaines, mon épouse m'a dit « Bah écoute, pour moi, j'ai fait une belle expérience, mais ça va s'arrêter là parce que c'est quelque chose qui est trop long pour moi. Je ne peux pas me couper de ma vie de tous les jours, de ma famille, de mes enfants, de mes petits-enfants. » À l'époque, on n'en avait pas encore, mais enfin bon. Et donc,
elle était dépassée par le chemin.
Non, pas dépassée, mais elle en avait vu pour elle les limites et elle a souhaité, Et je lui dis oui, mais moi je souhaite continuer et elle m'a dit, écoute, il n'y a pas de souci, continue, va. Et donc j'ai continué.
Et est-ce que ça a été difficile quand même de vous remettre en marche tout seul ?
Est-ce que vous voulez que je sois honnête ?
Mais bien sûr.
Je vais être honnête, non, ça n'a pas été difficile.
Bon, très bien.
Ça a été quelque chose...
Vous étiez porté.
Oui, j'ai tout de suite senti que ça me...
Ça correspondait à ce que vous aviez envie de faire.
Et je vais aller plus loin, je vais oser dire qu'en étant tout seul, j'étais dans une ouverture complète au monde, quand je dis au monde, aux personnes, mais aussi à la nature, aux monuments, etc. Du jour où j'ai été tout seul, je découvrais qu'il y avait une petite église Saint-Jacques à 3 km derrière le chemin, donc je n'hésitais plus à y aller, alors que si j'avais été avec mon épouse, j'aurais réduit ma quantité de kilomètres de marche. Des petits détails comme ça qui font que tout ça se vit autrement. Mais je n'ai vraiment aucun regret, bien sûr, d'avoir fait ce chemin avec mon épouse.
Oui, on a bien compris. Il y a un moment où vous avez été content de cette liberté, en quelque sorte. On le comprend aisément. Parce que quand on est sur ce chemin, on ne raisonne plus de la même façon, on est porté.
Voilà. Et alors, en plus, pour ce qui me concerne, je voudrais pas que mon cas soit qu'on analyse le chemin à travers mon cas.
J'ai eu déjà plusieurs personnes qui ont évoqué ce chemin, et je suis très contente d'entendre votre propre participation, parce qu'elle nous fait vivre, en quelque sorte, ce chemin.
Alors, une autre chose qui est arrivée, c'est que mes enfants... J'ai 3 enfants qui sont bien sûr adultes et qui m'ont dit très vite « Oui, mais on voudrait savoir comment ça se passe, qu'est-ce qui t'arrive, etc. » Donc à l'époque, c'était le début, pour moi, c'était le début du téléphone un peu Internet où on pouvait transmettre des messages. Mmh. Donc j'avais un appareil qui me permettait d'envoyer des emails. Donc j'ai commencé à envoyer des emails à mes enfants et ça m'a servi... De compte-rendu de journée.
Oui.
Et puis, je me suis pris au jeu, et plus les journées avançaient, plus je racontais mes journées avec des détails, avec des choses, parce que j'avais envie de faire partie.
Vous étiez heureux.
J'étais dans un bonheur absolu.
Oui, mais ça s'entend. Hein.
Et puis un jour, sur le chemin, quelqu'un me voit en train de tapoter sur mon téléphone, et me dit, mais tu fais quoi ? Je lui dis, écoute, voilà, il y en a qui écrivent sur un petit carnet, moi j'écris sur mon téléphone parce que je transmets. Et il me dit, mais tu mets pas des photos ? Parce qu'on peut mettre des photos dans le message. Ça date. Hein. Ça, c'est pas si vieux que ça, mais c'était quand même en 2010. Et donc, du coup, j'ai intégré des photos. Et mes premiers comptes rendus faisaient l'équivalent de... je vais résumer, mais je vais dire 3 pages d'écran succinctes. Enfin, voilà. Et à la fin de mon chemin, j'en étais à 15-20 pages par jour. C'était sans fin. Je prenais un bonheur à transmettre ce que je ressentais.
Mais oui, parce qu'on aime partager le bonheur.
Alors après, c'est chacun.
Oui.
Parce qu'il y a des gens qui intériorisent complètement. Moi, ça fait partie. Et puis petit à petit, j'ai envoyé à mes amis, j'ai envoyé à différentes personnes. Et le bouche à oreille a fait qu'un jour, j'ai découvert que 100 personnes lisaient mon petit compte-rendu. Ça m'amusait.
Et donc, vous avez mis combien de temps pour arriver à Saint-Jacques ?
Alors, je crois que c'est un mois et demi.
Un mois et demi.
Il y a 1560 kilomètres.
Ah oui.
Voilà. On est porté. On est... Alors, la grande richesse du chemin, pour moi, c'est la rencontre.
Vous avez fait des rencontres...
Extraordinaires.
Exemple ? Si ce n'est pas indiscret.
Non, rien n'est indiscret, mais en fait, sur le chemin, il y a une caractéristique, c'est qu'on est tous sur le même pied d'égalité.
Oui.
On n'a pas de différence sociale, on n'a pas de différence...
Il n'y a que la douleur qui pourrait vous...
Oui, la douleur physique, mais la douleur physique, elle est personnelle, mais on est tous sur le même pied d'égalité, ce qui fait que on rencontre des gens qu'on n'aurait pas l'occasion de rencontrer dans les circonstances normales de la vie. On ne cherche pas à savoir, à se faire mousser, etc. Et du coup, ça libère la parole.
Bien sûr.
C'est-à-dire que on en parlait ce midi puisqu'on était accueillis formidablement au café Circonflexe où on aura le 20 janvier à 19h ce qu'on appelle un café Camino, mais je vais y revenir juste derrière.
Oui, oui.
Mais donc on en parlait ce midi et en fait on est tous sur le même pied d'égalité et on se sent libre de parole et donc de ce fait on peut dire des choses qu'on ne dirait pas à un ami, à un proche de la famille, à son épouse, etc. Parce que la liberté de parole fait qu'on peut tous dire. Et surtout, pourquoi on peut tous dire ? Parce qu'on sait que probablement on ne se reverra pas dans les semaines à venir.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale.
Thank you.
Nous sommes toujours sur le chemin de Compostelle et maintenant j'aimerais bien écouter Pierre Écart qui va évoquer pour nous les conditions en quelque sorte de ce chemin de Compostelle.
Alors les conditions du chemin, c'est assez simple en fait. Il y a les valeurs du chemin. Une des principales valeurs, c'est l'accueil.
D'accord.
L'accueil et puis le respect de l'autre. Donc l'accueil, une de nos missions principales, nous, sur le département, c'est d'accueillir les pèlerins.
Oui.
Et donc on a toute une liste de familles d'accueil. On a une cinquantaine de familles.
Sur le chemin.
Sur tout le département, sur le chemin, tout le long du chemin.
De Chartres, vous voulez dire, jusqu'à Compostelle.
Oui, parce que le chemin, il part dans le département, il part de Dreux jusqu'à
Compostelle.
Cloix-sur-le-Loir, en fait.
Ah oui.
Pour l'un, il y a un autre chemin qui vient de Paris, qui arrive sur Épernon.
Oui, alors c'est ça. Il faut savoir que déjà, en France, on a un chemin. C'est ce que vous voulez dire.
Alors en France, il y a des tas de chemins. Il y a plusieurs chemins. Enfin, là, Sylvain en parlera beaucoup mieux que moi. Il y a les quatre voies principales et traditionnelles. Donc c'est la voie d'Arles, la voie du Puy, la voie de Vézelay, la voie de Tours, sur laquelle qui passe chez nous.
Voilà. Pour nous, les Chartrains, voilà. Nogentais,
voilà. Sachant que ça sont les voies principales. Mais bon, les chemins, le pèlerin parle de chez lui.
Oui.
Et puis après, il utilise les structures en place et les chemins qui sont installés. Et donc, je reviens à l'hébergement, l'accueil. Donc, on a un réseau d'une cinquantaine d'adresses, je peux dire, enfin de contacts.
Mm-hmm.
Donc, beaucoup, principalement des familles, donc des familles qui accueillent bénévolement les pèlerins. Donc,
C'est-à-dire que là, ils vont trouver une chambre.
Ils ont une chambre, un repas, la douche et puis le départ. Et donc, ces familles-là, et le pèlerin qui veut contacter... avoir ces informations-là, contacte l'association. On a un numéro de téléphone, un numéro d'accueil que je peux donner dès maintenant. C'est le 06 52 43 66 62. Donc ça, c'est le numéro de l'association. On répond à tous les demandes de renseignements.
Et vous, vous êtes basé où ?
Alors ce numéro-là, c'est un téléphone qui se promène chez un de nos...
Oui,
nos
c'est
sur
ça.
Le département. Il est pas n'importe où.
Oui.
Dans le département.
Donc tous ceux qui nous entendent, qui ont envie de partir sur le chemin de Compostelle, qui habitent l'Eure-et-Loire,
voilà,
peuvent téléphoner
à ce numéro-là, ou en plus
redites-le simplement... Redites-le peut-être.
C'est le 06 52 43 66 62, ou plus simplement d'aller sur notre site internet, compostelle28.org,
oui.
Sur lequel il y a un lien, un onglet contact. Donc on fait un mail et ça arrive chez nous. Et après, on recontacte la personne, on répond à ses questions, on entre en lien avec elle et on répond à...
Oui, parce que ça, c'est très intéressant. Maintenant, on sait que quand on est en Eure-et-Loire, on peut aussi commencer son pèlerinage,
bien sûr.
Et ça, peut-être, on ne le savait pas auparavant. On allait quelquefois assez loin par le train ou quelque chose comme ça.
Il faut partir du Puy-en-Velay pour la Compostelle. En fait, on part de chez soi, de son domicile.
Voilà. Alors ça, c'est comme...
Moi, personnellement, je suis parti de chez moi, de ma maison. J'ai fermé la porte et je suis parti.
Oui, c'est ça. Voilà. Et vous étiez déjà sur le chemin.
Ah ben, oui, je suis parti. J'ai dit au revoir aux voisins. Je passais devant chez eux. Et puis voilà, je suis parti de chez moi.
Alors racontez-nous un peu, justement, votre itinéraire.
Je suis parti. J'habite près de Dreux, à Garnay. Donc je suis parti de la maison.
Oui.
Garnay, j'ai fait halte à un chalet. Ma première étape, c'est important. De chalet, j'ai vu la cathédrale au loin. Donc, puis on est content de la voir. Après, je suis arrivé à Chartres.
Et alors là, vous êtes arrivé dans une famille qui vous a très gentiment...
À Chalet, c'est une étape. C'est une salle paroissiale qui est mise à disposition. Il y a trois matelas.
Oui.
Donc on met les matelas par terre. Et puis voilà. Et puis la personne qui s'occupe de ça, généreusement, nous accueille à dîner le soir. Et puis donc c'est merveilleux comme étape.
Oui.
Voilà.
Donc vous étiez déjà content de la première étape.
C'était super, ouais. C'était comme dans les livres, en fait. Hein. Voilà. Et puis le lendemain, on repart. Et puis voilà, on arrive à Chartres. À Chartres, donc un autre accueil. Et comme ça, jusqu'au bout.
Oui.
Alors quand il n'y a pas de famille d'accueil, il y a des structures.
Vous disiez des structures.
Oui, il y a les familles d'accueil, mais il y a aussi des gîtes communaux, des gîtes paroissiaux. Il y a aussi des communautés religieuses qui accueillent le pèlerin. Voilà. Par exemple, en Eure-et-Loire, on a le prieuré Saint-Thomas à Épernon qui accueille les pèlerins de passage.
Voilà.
Donc, les objectifs de l'association, il y a la promotion des chemins.
Aller à Saint-Jacques.
Entrer en contact avec le public qui se pose des questions, anticiper, leur dire comment il faut faire. Et donc, nous organisons le 20 janvier prochain au café circonflexe donc de Nogent-le-Rotrou, ce qu'on appelle une soirée camino, un café camino. C'est un moment d'échange. On réunit toutes les personnes qui veulent entendre parler de Compostelle. On a un témoignage d'un pèlerin qui va raconter comment il a vécu son chemin.
Oui.
Et après, il y a une période très intéressante d'échanges, questions-réponses avec le public. Alors là, on parle de tout. On parle de comment on parle, à quelle saison faut partir, quel équipement nécessaire, qu'est-ce que l'on mange, est-ce qu'une femme peut partir seule, combien ça coûte, combien de temps.
Le poids des bagages.
L'équipement, les chaussures, enfin toutes les questions pratiques que se pose le candidat pèlerin qui n'a jamais marché, qui n'est jamais parti tout seul.
Et c'est la première fois que vous allez faire ce genre d'expérience avec le circonflexe ? Vous le faites déjà ?
Avec le circonflexe, c'est la première fois, oui. Donc la circonflexe, quand on a cherché, parce qu'en fait, avant, on faisait des cafés camino comme celui-ci. On les faisait par chez nous. Enfin, nous, on est tous un petit peu de l'est du département. Et donc, c'était à Chartres, Châteaudun. Mais on s'est rendu compte, finalement, dans Nogent-le-Rotrou, il y avait un grand vide, là, une terre incognita, on ne connaissait pas. Donc on a acheté une balise sur Nogent-le-Rotrou et on était en contact rapidement avec le café circonflexe, avec lequel tout de suite on s'est senti des atomes, des valeurs communes.
Oui.
Et donc on est accueillis très généreusement et donc on est très heureux de leur aide. Participer avec eux.
Donc grâce au circonflexe, vous allez pouvoir faire une conférence.
Conférence, c'est pas assez, enfin, une rencontre. En fait.
Une rencontre,
ça,
oui.
Ouais, ils nous prêtent, donc ils nous accueillent dans leurs locaux.
Oui.
Voilà. Donc c'est le 20 janvier à 19h. Donc café de circonflexe.
Très bien. Alors peut-être j'aimerais aussi entendre Sylvain Pénat, qui est vice-président de Compostelle 28, qui va évoquer également ce chemin.
Ce chemin. Alors on m'a demandé de raconter l'histoire du chemin. Mais comme il ne me reste pas beaucoup de temps, c'est une vraie gageure, parce que ce chemin, il est plus que millénaire.
Oui.
Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un chemin mythique.
À savoir
que, en fait, c'est basé sur une histoire qui est, et je dis le mythe, c'est pas moi qui le dis, mais j'ai trouvé ça, me disais qu'est-ce que c'est qu'un mythe.
Oui.
Et en fait, j'ai trouvé un auteur qui a dit le mythe, c'est quand la légende devient réalité.
Exactement.
Et j'ai trouvé que c'est joli. Et ça, c'est exactement le chemin de Compostelle. Alors, pour connaître l'histoire, moi, ce que je vous conseille, c'est de venir un jour chez nous.
Chez vous, ça veut dire
Ou chez nous, quand on organise des manifestations, ou au café Camino, pour qu'on puisse raconter en détail cette histoire.
Donc, à Nogent-le-Rotrou, ce sera...
Si les gens le demandent, on peut raconter l'histoire de... On l'a raconté très récemment à la 25e heure à Chartres.
Oui.
Et la 25e heure, c'est une manifestation organisée par l'association des villes sanctuaires.
D'accord.
Et donc, on a fait la montée des marches et pendant une heure, en montant les marches, on a raconté toute l'histoire de Saint-Jacques. Et déjà, en une heure, c'est déjà très court pour raconter l'histoire de Saint-Jacques. Donc,
alors, on n'a pas une heure, mais quand même, racontez-nous un peu.
Mais ce qui est intéressant, et je dis, c'est en ce moment, on projette Avatar. C'est un film un peu à la James Cameron, Les chemins de Saint-Jacques, si on veut connaître.
À savoir.
Il y a des légendes. Il y a des histoires de reines un peu maudites, avec de bêtes féroces, de bœufs indomptés.
À quelle époque ?
Ça, c'est quand ce qu'on appelle la translation de Saint-Jacques, après qu'il a été décapité à Jérusalem, il est parti dans une barque avec un disciple, son corps, qui a traversé toute la Méditerranée, le détroit de Gibraltar, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, et la barque a échoué à Padrone. Et en arrivant à Padrone, ils ont voulu enterrer le corps de Saint-Jacques, qui avait, dans un temps antérieur, été envoyé pour évangéliser l'Espagne, ce qu'il n'avait pas trop réussi. Et donc... Et là, il rencontre la reine Luparia, qui était la reine païenne, et qui dit non, pas question qu'on enterre Saint-Jacques chez moi. Mais je peux vous donner un chariot avec des bœufs. Et elle leur donne des bœufs féroces et indomptés. Et à sa grande surprise, dès que le cercueil a été mis sur le...
Ils sont devenus calmes.
Calmes. Après, Elle dit, allez voir chez mon voisin le roi d'à côté. Donc, et ils partent avec le chariot. Et le roi, en arrivant, dit, moi, je veux pas. Et ils sont obligés de fuir. Et les troupes du roi qui poursuivent le cercueil, l'attelage, ils traversent une rivière. Et juste derrière l'attelage, le pont s'effondre et tout s'écroule. Le voyage continue de l'attelage. Et tout d'un coup, ils sont attaqués par un dragon volant.
Ah.
Et au moment où le dragon allait les atteindre, tout le ventre du dragon s'ouvre. Et le dragon, il s'affale.
Il est mort.
Il est mort. Et donc, ils reviennent chez la reine Luparia, qui, subjuguée par tant d'événements miraculeux, se convertit au christianisme. Et leur offre un autel en marbre et bâtit une église. Ah, donc, c'est de là l'origine de la légende. Après, là, c'est l'intervention de Charlemagne, puisque c'est Charlemagne qui a fait la légende de Saint-Jacques.
Oui.
Charlemagne.
Donc là, on est au 9e siècle.
On est vers 800...
Oui, 9e siècle.
9e siècle, voilà. Avec un petit hiatus, Charlemagne n'a jamais pu aller sur le tombeau de Saint-Jacques, puisque Charlemagne, il est allé sur le tombeau de Saint-Jacques par une révélation. Il a vu Saint-Jacques en rêve, comme le décrit le vitrail
à Chartres.
De Charlemagne à Chartres.
La cathédrale,
qui lui ont dit, allez voir, voilà. Sauf que... pour aller voir, il aurait fallu que le tombeau ait été découvert par l'ermite Pélage au 9e siècle. Or, l'ermite Pélage, il a été accompagné par l'évêque Théodomire, qui est un évêque qui n'a été en exercice qu'à partir de 825-830. Et Charlemagne était déjà mort depuis un certain temps.
Oui.
Donc là, mais c'est la légende qu'a fait. Il y a un livre qui s'appelle le Codex Calixtinus.
Oui.
Qui est la base de toute l'histoire, qui raconte cette histoire, qui raconte d'ailleurs la translation, qui raconte l'histoire de Charlemagne. Au passage, et ça, peu de gens le savent, il y a tout un recueil de liturgie au départ, le premier livre, le Calixtinus compte 5 livres, le premier livre, c'est les liturgies. Et il y a 4 hymnes de Fulbert et une messe complète de Fulbert dans le Codex Calixtinus.
Parce que nous connaissons bien Fulbert. Hein.
Ben voilà, Fulbert, évêque de Chartres. Hein.
Mais voilà.
Et donc, moi, j'ai été le premier surpris. Et même des gens qui connaissent très bien la cathédrale et ça ont été surpris de découvrir que Fulbert était dans le Codex Calixtinus. Codex qui est d'ailleurs inscrit au patrimoine de l'UNESCO, comme la cathédrale, comme les chemins de Saint-Jacques. Voilà. Et donc, c'est ce Codex Calixtinus qui racontait l'histoire de Charlemagne, avec Roland, Roncevaux, qui a relancé
le pèlerinage.
Le pèlerinage. Mais vous voyez bien que ça pouvait pas. Historiquement, c'est prouvé que c'est pas possible.
Oui.
Voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une légende. C'est une légende. Mais maintenant, Saint-Jacques, c'est bien une réalité. Depuis 1000 ans, c'est une réalité. Il y a des millions de pèlerins qui ont marché vers les...
On sait exactement. On a des chiffres.
Non, il n'y avait pas de...
On n'a pas...
Mais, non. Et il y a beaucoup de controverses. Hein. Il y en a, mais on sait qu'il y en a énormément qui sont allés. On a beaucoup de récits de voyages, de registres, etc. Donc,
et alors aussi, oui, je pense qu'on a pu faire des fouilles, peut-être.
Alors, on a fait des fouilles. Bon, maintenant, les papes de l'époque avaient certifié que c'était là-bas des vraies reliques de Saint-Jacques. Sauf qu'aujourd'hui, avec toutes les reliques de Saint-Jacques certifiées qui existent, on peut reconstituer 11 Saint-Jacques. Hein, donc, 11 ou 12 Saint-Jacques. Hein, donc, Mais à l'époque, les reliques, c'était très important au Moyen-Âge. Hein.
Eh bien, écoutez, un grand merci à vous trois. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiocranciel. Et je vous incite absolument à aller le vendredi 20 janvier à 10h du matin.
Non, 19h.
Pardon, à 19h au Circonflexe à Nogent-le-Rotrou. Un grand merci à vous. Et je vous dis à bientôt, chers auditeurs.